Vis, vis, versa, versa, versa. Ensemble, à l'écoute. Votre communauté, vos discussions. Et une animatrice près de vous. Voici Vis Versa avec Marie Chabot-Johnson. Vis Versa.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la première émission de Vis Versa avec Marie Chabot-Johnson. On fait un nouveau concept à CKVL, une émission connectée à la communauté et à la diversité sur toutes ses formes. C'est un projet qui a été développé dans les dernières semaines, les derniers mois, et je suis vraiment heureuse aujourd'hui de pouvoir enfin le mettre au monde. Donc, on parle d'un projet qui va être destiné à tous et à tous, comme on dit, donc j'aime bien le féminiser. Un carrefour où on peut se rassembler à travers plusieurs initiatives, parler à des personnes issues de plusieurs parcours, vraiment. Donc, qu'est-ce que l'émission va nous réserver en général? On parle de parler des projets qui sont faits pour les allophones, on parle de projets pour les personnes avec des situations d'handicap, on va parler d'initiatives bénévoles à La Salle, à Verdun, au Sud-Ouest, à la Chine, et même un peu à l'extérieur, dans toute l'île de Montréal. Vraiment, on va essayer de faire des rencontres intéressantes avec des artistes de la diversité, entre autres, ou encore des organismes qui œuvre directement auprès de personnes touchées par plusieurs enjeux de la diversité. Donc, en partant, un des concepts que je veux vous dire, c'est que l'idée de Québécois de souche sera exclue de cette émission. Il n'y a pas un ou une Québécoise, il n'y a pas une forme d'être Québécois. Tout le monde peut se dire être Québécois. Donc, on va parler de concepts vraiment, tu sais, minorité culturelle, minorité visible, première, deuxième, troisième génération, nouvel arrivant. Tout le monde sera invité à participer et justement à donner sa notion de qu'est-ce que l'identité québécoise, et pas juste une question qui est identitaire, mais vraiment comment on peut se définir? Est-ce qu'on se définit par son appartenance ethnique, culturelle? Est-ce qu'on se définit par ses valeurs, par son travail? Vraiment, on va essayer d'explorer un peu sur tous ces angles, cette perspective. Donc, à l'émission aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir une rencontre avec une romancière d'origine palestinienne qui est aussi présidente de l'espace de la diversité au Salon du Livre, Yara El-Gaban. On va avoir un portrait du mouvement Non à la haine, dans lequel j'étais allée faire une mission exploratoire à Bruxelles sur le discours haineux. On va avoir une petite chanson de Pierre Quenders avec une grande histoire, une histoire qui est porteuse, histoire du Québec, vraiment à travers plusieurs traditions autochtones. Et on va avoir des petites bulles témoignages qui pourront passer à travers l'émission avec des personnes de la communauté de Montréal qui nous ont donné leur opinion sur qu'est-ce que l'identité, qui sont-ils vraiment dans leur plus profond. Mais commençons avec l'entrevue dont je vous parlais au début avec Yara El-Gaban, qui est romancière québécoise d'origine palestinienne, fait un grand parcours de migration, née à Dubaï, qui a passé par plusieurs villes avant d'arriver à Montréal à l'âge de 13 ans, qui maintenant écrit en français et qui fait la promotion vraiment de la diversité à travers la littérature. Qu'on ait un grand portrait global de qu'est-ce que la littérature au Québec, et elle pense que vraiment c'est plus complexe qu'on pourrait le penser. L'espace pour la diversité au Salon du Livre qui a commencé mercredi et qui se finit lundi, plein de belles activités, donc elle pourra nous parler et que je pourrais vous en reparler.
Je suis la présidente de l'Espace de la diversité. C'est un organisme à but non lucratif et dont la mission, c'est évidemment de faire circuler les livres et la littérature, mais de se servir de la littérature comme lieu de rencontre, lieu de croisement d'idées, de réflexion, d'échange et un lieu pour décloisonner les cultures.
Donc, c'est bien savoir que c'est un OBNL parce que j'avais l'impression que c'était comme une section du Salon du Livre également.
Non, en fait, pas du tout. En fait, le salon de l'espace de la diversité, en collaboration avec Mémoire d'Encrier, a loué un stand au salon. Et donc, on est un exposant. On a loué le stand. C'est nous qui animons le stand. Le salon, par contre, a collaboré avec nous beaucoup. C'est une initiative très intéressante pour le salon. Ils nous ont beaucoup aidés pour la logistique. Ils nous ont aidés aussi au niveau pour rendre le salon plus accessible. Nous, on avait exprimé notre souhait que des personnes qui n'auraient jamais pensé venir au salon parce qu'ils avaient la perception que le salon n'est pas pour eux et que les enjeux qui sont exprimés, en fait, les animations ne parlent pas nécessairement à leur vécu, à leurs enjeux. Peut-être même que les livres ne sont pas nécessairement les livres, mais ce sont des perceptions du salon et on en a discuté beaucoup avec le Salon du Livre. Puis ils ont été très partants. Nous avons deux libraires, en fait, extraordinaires qui vont gérer le stand pour nous. La librairie Zone Libre, avec la directrice Mireille Frenette et son équipe, et le plateforme Bookwiki, qui est un plateforme qui permet la diffusion, circulation des littératures du monde en ligne et qui est aussi un diffuseur. Dès le début, on a décidé qu'on allait vraiment ouvrir cet espace-là puis y discuter de ces enjeux, de ces problématiques auxquelles font face beaucoup de personnes marginalisées, à la fois économiquement, socialement, culturellement, qui vivent beaucoup l'exclusion à plusieurs niveaux. Et donc, c'était important pour nous de travailler avec des organismes communautaires pour mobiliser, pour aussi identifier les enjeux et les thématiques qui les concernent. Vraiment marier cette réflexion critique, cette pensée critique à la littérature. Et donc, les auteurs ont été très partants de participer, de faire exprimer à la fois leur côté littéraire, leur création, mais aussi leur côté citoyen. Donc, c'est vraiment un stand à la fois littéraire et citoyen, et éducatif et engagé et critique. Et je pense que c'est très intéressant comme initiative qu'on est en train de lancer.
Il y a deux missions à travers l'espace pour la diversité. On parle du lieu de rencontre, de découvrir la littérature d'autres pays, mais on a aussi l'objectif l'exclusion. En fait, je me demandais d'après vous, comment ces deux missions-là se jumellent?
Mais en fait, quand on lit la littérature, c'est une fenêtre ouverte au monde. C'est une fenêtre ouverte à l'autre, à d'autres imaginaires. Quand on lit, on sort de nous-mêmes. Donc, si on veut repenser le rapport à l'autre, je crois un bel endroit pour commencer de lire un bon roman, de lire une œuvre qui nous ébranle, qui nous questionne, qui nous interroge. Donc, pour nous, c'est tout à fait naturel que littérature et réflexion sur le vivre ensemble, la diversité, l'exclusion, le racisme et comment on vit avec les autres, comment on crée des relations avec les autres, doit passer par les mots, par l'imaginaire, par la littérature. Et je pense que la littérature le fait même naturellement. Et nous, on met en exergue cette capacité des mots de changer le monde. J'y crois profondément. Et quand on pense tout ce qu'on fait pour censurer certains mots, on se dit, ah, mais c'est parce que les mots sont puissants. Pourquoi on a peur de certains mots? Parce que les mots sont puissants, parce que la parole est puissante, parce que la littérature est puissante. Et nous, on part vraiment de cette conviction-là que la littérature, le livre, les mots, la poésie, la création, l'imaginaire peut en fait nous rapprocher les uns des autres et peut nous permettre même d'aborder des questions taboues que normalement on aurait du mal à exprimer devant quelqu'un qui peut être différent de nous. Mais tout à coup, si on est tous les deux en train de discuter d'un livre qu'on a lu, un roman ou un auteur, ça nous amène sur un autre plan. Et c'est ça qui est intéressant, cette vision qui se fait par la littérature.
J'ai vu que vous-même vous engagez dans les luttes féministes, antiracistes. Vous êtes impliqué dans des thèmes comme la diversité, le racisme, la littérature postcoloniale. C'est à quel moment que vous-même vous avez découvert le pouvoir des mots?
J'y ai toujours cru. Je suis quelqu'un qui, depuis l'enfance, j'ai eu la chance, le bonheur d'être entourée de livres. En fait, juste pour vous donner un petit exemple, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais 13 ans, je parlais pas le français, j'étais toute seule, je n'avais pas encore fait des amis. Et qui était mon seul compagnon? C'était la bibliothèque. Donc après l'école, j'allais l'après-midi et je lisais, je passais mon temps avec les livres. Et c'est comme ça que je me suis construite un imaginaire, que je me suis construite moi-même. C'est comme ça aussi que j'ai développé ma langue, imaginaire et tout. Donc, pour moi, ça n'a jamais été une question, le pouvoir des mots. Ce qui nous fait humains, c'est la langue, le fait qu'on puisse se représenter à travers des mots, puis qu'on puisse réinventer le monde à travers des histoires, à travers des poèmes. Tout est possible quand on est. Il n'y a plus rien qui est impossible.
Mais d'ailleurs, j'avais vu que vous êtes née à Dubaï, si j'ai bien compris. Vous avez vécu un long parcours de migration, Dubaï, Buenos Aires, Beyrouth, Sanaa et Londres. Comment votre écriture peut apporter aux lecteurs et aux lectrices pour connaître la migration? Comment vous faites pour rendre ces thèmes-là accessibles?
Mais moi, je pense que ce que je vis, c'est ce que de plus en plus de monde vivent. En fait, on vit dans un monde, même si on ne se déplace pas, le monde entier et nous arrive à travers nos écrans, à travers nos voisins. Je dis toujours, en fait, le Québec est dans le monde et le monde est au Québec. On est tous dans un certain point nomade et on doit tous réfléchir sur notre lieu, sur notre relation à l'autre qui est différent que nous, mais avec qui nous partageons cet espace, cette terre, cette vie, cette ville. Alors moi, de la manière que j'aborde ça, j'essaye d'aborder ça à travers la beauté, à travers la tendresse. J'essaye même de quand je parle de guerre, il y a toujours un aspect, je dirais, d'humanité qui pour moi est très important. Pour ça, je travaille beaucoup avec la cuisine, avec l'essence, avec les odeurs, avec tout ce qui rend la vie belle, qui en fait nous permet de nous sentir présents. Et la cuisine, c'est le lieu où on se rencontre, où on se parle. C'est aussi la chose la plus, je dirais, la plus plus intime au niveau de la culture, c'est les repas que notre mère nous cuisinait. Donc c'est comme ça que j'essaie d'aborder ça. Par exemple, dans le premier roman, je parle de l'enfance et de cette fille-là qui est en train de perdre son innocence, passer à travers la puberté, en train d'aimer pour la première fois, en train de découvrir que le monde est parfois violent. Et ça, toute personne peut s'identifier à ce moment de perte d'innocence et de ce questionnement que, bon, quelle place moi j'aimerais occuper dans ce monde-là. Et quand on parle d'amour, quand on parle de guerre, comme dans le deuxième roman, et quand on parle de décisions difficiles, quand on parle du désir de la femme évoqué dans le deuxième roman, le désir de la femme arabe, je pense qu'on peut tous s'identifier à ces moments de grande passion, à ces limites qui nous font peur et on se pose la question est-ce qu'on ose aller au-delà des limites que la société nous a prescrites. Je pense que si on aborde ça comme ça, en fait, moi, mon souhait, c'est que quand les gens me lisent, ils ne voient pas l'immigrant et qu'ils voient un être humain. Et je pense que c'est ça que le roman permet. C'est, on oublie que c'est une Palestinienne, une immigrante qui écrit, oublie que, en fait, même le lieu, oublie le lieu. Parce que ce qu'il y a derrière chaque roman, c'est une histoire humaine. Et on est tous des êtres humains. Je pense que là, c'est possible de discuter et d'évoquer les sujets les plus difficiles à travers l'écriture.
Mais j'en profite en même temps pour dire, juste rappeler qu'on a parlé du premier roman, du deuxième roman, que vous aviez publié deux romans, L'ombre de l'Olivier en 2011 et Le parfum de nous en 2015. Justement, il y a l'aspect de l'universalité. Qu'est-ce que j'aime dans l'espace de la diversité, c'est qu'on parle de littérature d'autres pays, qu'on tutoie peu quand même dans nos cursus scolaires, qui est quand même une grande part d'ouverture à la littérature. Mais outre que le kiosque, comment vous trouvez qu'on fait une place à la diversité, justement, dans la littérature québécoise?
Écoutez, je vais vous dire honnêtement, c'est un combat. Je pense qu'on a encore une certaine idée de ce que c'est la littérature québécoise. On a une certaine idée de ce que c'est qu'être québécois, de ce que c'est le terroir. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est que, en fait, la littérature québécoise est beaucoup plus riche que vous le croyez. Ici, au Québec, on est vraiment très, très, très chanceux parce qu'on peut, en fait, avoir accès à une perspective sur le Sénégal, sur Haïti, une perspective sur l'Algérie, à partir de l'écriture, de l'imaginaire de nos propres concitoyens, qui sont des auteurs québécois, mais qui portent en eux aussi d'autres mondes, d'autres imaginaires. Et le problème, c'est qu'on a tendance souvent à mettre ça de côté. Bon, il y a la littérature québécoise, il y a la littérature migrante ou la littérature de la diversité. Et du coup, on crée des séparations, des frontières qui ne devraient pas exister. Alors, c'est un travail, et le travail de l'espace de la diversité, c'est vraiment ça, d'anéantir en fait ces frontières qui sont complètement artificielles, de changer nos perceptions de ce que c'est être québécois, parce que c'est vraiment beaucoup plus complexe que le discours qu'on entend dans les médias, où on a tendance à dire, voilà, il y a les autres, il y a les grands, voilà, il y a nous, il y a les nouveaux arrivants, puis il y a même des dates, tu sais, si t'arrives, si ça fait 5 ans, t'es là, t'es un nouveau arrivant, après ça, t'es un néo-québécois, après ça, t'es un je sais quoi. Mais pourquoi toutes ces catégories? Je ne les comprends pas et je les accepte de moins en moins. Moi, quand j'écris sur la Palestine, ça fait partie maintenant, parce que je suis au Québec, j'écris en français, ça fait partie de l'histoire du Québec. Mon histoire palestinienne ne m'appartient plus à moi seule. Elle appartient, je l'appartiens aussi à tous mes concitoyens québécois. Quand Martine Fidel, qui est une auteure haïtienne, écrit sur la vie des jeunes femmes en Haïti, on peut se dire, ah, mais ça c'est pas nous. Et pourtant, elle est en train de partager ces expériences-là. Et je pense que beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes vont s'identifier à tous les obstacles, tout le courage aussi de ces personnages-là dans le livre de Martine Fidel. Il faut vraiment aller au-delà de ces conceptions qui pour moi nous limitent et pour aucune raison. Les frontières existent dans nos têtes et on peut les faire disparaître aussi. Donc là, on va avoir 25 animations au stand de l'espace de la diversité avec une cinquantaine d'auteurs de partout du monde. On a un auteur, un poète américain d'origine vietnamienne qui va venir pour 3 jours et qui va partager à travers lui, on entre dans l'expérience de l'exil vietnamienne, mais aussi l'expérience de lui en tant qu'auteur homosexuel qui parle avec une telle beauté, mais aussi une telle force. Il ne faut pas les regarder comme des étrangers. On va avoir des animations pour combattre le racisme. Qu'est-ce que c'est pour combattre? C'est pas pour lever le drapeau. Non, les auteurs vont partager ces penseurs et ces auteurs qui les ont aidés à grandir, qui a dépassé certaines formes d'aliénation, et ils vont les partager avec le public. Donc, on va tous sortir grandis de cette expérience. Et on a 10 auteurs ici d'origine arabe, qui écrivent en arabe, qui écrivent en français, qui écrivent dans plusieurs langues, qui écrivent du Québec et qui publient sur le Québec en Égypte. Donc, il y a des lecteurs égyptiens qui lisent sur le Québec grâce à ces auteurs-là. Pourquoi on ne les connaît pas? Donc, c'est ça la question que je me pose, et c'est ça qu'on essaye, en fait, de combattre, ces limites qui n'ont pas besoin d'exister.
Oui, tout à fait, de passer au-delà du moi et l'autre pour aller au nous.
Mais oui, un vrai nous, solidaire.
Pour conclure, je demanderais si vous auriez des auteurs et autrices à nous faire découvrir.
Honnêtement, il y en a tellement. D'abord, on reçoit l'auteur et intellectuel Céline Sarr, qui est auteur invité à l'honneur au Salon du Livre de Montréal, qui vient du Sénégal, qui est en fait l'un des penseurs les plus intéressants, je dirais, qu'on lit aujourd'hui, qui a une vision pour l'Afrique, qui a une vision pour le monde. On va avoir une animation, donc une bibliographie pour combattre le racisme. On va discuter de Fanon, d'Edouard Said, Hannah Arendt, tous ces penseurs. Joséphine Bacon et Gilles Bibaud, donc Gilles Bibaud qui est un anthropologue, un auteur, et qui va venir parler de l'Andalousie, donc qui prend l'exemple de l'histoire de l'Andalousie où les civilisations se sont rencontrées, les civilisations occidentales, chrétiennes, musulmanes, juives, africaines, pour penser aujourd'hui le monde d'aujourd'hui. Comment l'exemple de l'Andalousie peut nous permettre à mieux penser le rapport à l'autre aujourd'hui. Donc, il y aura des activités toute la journée sur le stand. Je vous encourage, vraiment, j'encourage le public à venir rencontrer les auteurs. Ils seront là pour vous parler, pour partager avec vous. Et vraiment dans un esprit, je dirais, de dialogue, de partage, de convivialité et de passion partagée pour la littérature.
Merci à Madame El Gabane pour m'avoir donné cette entrevue au début de la semaine. Et on rappelle, le Salon du Livre va se tenir jusqu'au lundi. Et pour faire un petit retour sur les événements qu'elle me parlait, il y a beaucoup d'enfants de panels, de rencontres avec les auteurs à l'espace de la diversité qui ont eu lieu depuis mercredi, mais pour les auditeurs qui n'ont pas eu encore la chance d'y aller, samedi et dimanche, on a quand même des Belges, donc je voulais vous partager. Donc elle parlait justement d'un poète américain d'origine vietnamienne qui va être de passage au Salon du Livre. Il sera là samedi à 14h pour un panel qui s'intitule « Nous sommes tous des réfugiés » en compagnie de traducteur Marc Charron et de la romancière Caroline Vu. Pour parler justement de l'exil vietnamien et toute l'expérience qui était derrière ça. On aura aussi la chance d'avoir une conférence à 16h30, le même jour de samedi, avec l'écrivain de renom du Sénégal dont elle parlait, Felwine Sarr, ou encore à 17h, il y en a une que je trouvais vraiment très intéressante qui s'appelle « Un autre Amérique est-elle possible? » Donc c'est une conversation justement sur les voix, les regards et paysages qui incarnent la lutte et l'espoir des peuples autochtones. Donc quand on parle de diversité, on parle beaucoup des minorités qui sont arrivées au Québec. On parle aussi des peuples autochtones qui étaient là à la base. Donc, quand on parle de Premières Nations, il faut vraiment leur rappeler que c'est quand même deux situations complètement différentes. Donc, merci. Quand même, c'est des beaux événements. Et on va poursuivre en chanson avec une chanson de Pierre Quenders qui s'appelle la chanson Anikuni. Puis, c'est pas pour rien qu'on a décidé de prendre cette chanson-là. En fait, c'est comme un remix d'une chanson cantine autochtone à la base. On connaît tous un petit peu la chanson Anikuni, Shawani, qu'on chante beaucoup dans des camps de vacances. Elle a été popularisée au Québec par Madeleine Chartrand, qui elle-même savait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Quand on l'entend dans des reportages, elle n'avait pas nécessairement l'idée approfondie de qu'est-ce que ça voulait dire. Et CBC, l'année dernière, en fait, au début de l'année, a fait un reportage à travers un de leurs stagiaires qui était d'origine autochtone de Yellowknife pour savoir d'où venait cette chanson-là. Et en fait, c'est une prière autochtone qui veut un peu faire un rappel comme notre Père qu'on a pour les catholiques qui, en fait, demande au Dieu créateur de leur donner de la nourriture, de leur donner de la boisson, en fait, pour boire. Ils ont soif, ils ont faim, et longtemps, on a pensé que c'était une comptine qui était iroquoise, parce que c'est vraiment popularisé au Québec, mais en fait, à travers plusieurs recherches que le stagiaire de CBC a faites, on s'est rendu compte que c'était d'origine des Arapaho, qui sont des peuples autochtones du centre des États-Unis. Et dans la chanson de Pierre Quenders, avec un petit mix électro, on entend les paroles d'origine autochtone et on entend un peu la traduction quand on parle en français.
Mon frère. plus rien à manger. Tout a disparu, plus rien à manger. Papa, 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 aie pitié de moi. Papa, 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 yo kangamawa. Tout a disparu, plus rien à manger. Tout a disparu, plus rien à manger.
Faut qu'on adore, la bouche pleine bédaine, la faim puis la soif. Un excès de l'accès ou manque de pour après. C'est ça qui crée des cons puis des têtes sont bien gonflées. Raconter des histoires, moi, toi, toi, c'est juste qu'il y a des nous. À vous c'est ça la fin, quand la fin c'est pas le plus délai. Mais problème pour ce monde, parce qu'on s'aide les uns les autres. Tout le monde peut manger, ça fait du bien à digérer. Le pétard, tout le monde et tout le monde santé. Le pétard, tout le monde et tout le monde santé.
Je m'appelle Hanoï Fayad. Moi, je suis une personne très intéressée au futur du monde. Je pense beaucoup aux enjeux de la paix, de l'égalité dans le monde. Je viens de la Syrie. J'habitais en Syrie et je suis à l'origine palestinienne. Je viens des régions en guerre. Avec la guerre, il y a eu beaucoup de divisions dans la société. Comme j'étais journaliste pendant plusieurs années, maintenant j'aime faire partie des efforts pour sensibiliser nos communautés aux valeurs humaines. Je pense que ces valeurs vont guérir mal résultat de ce qui s'est passé dans la société où je viens. Aussi parce que beaucoup des gens syriens sont venus ici. Comme nous avons une petite communauté syrienne ici, et aussi il y a des Palestiniens, mais c'est vrai qu'on a de nouvelles vies ici. Mais c'est vrai aussi qu'on apporte beaucoup de blessures. On a besoin de les guérir. Et je suis très, très convaincue que c'est l'amour qui va régler tous les problèmes dans nos communautés, dans notre nouveau pays, dans le monde en général. J'aime partager avec les autres personnes une chose de ma culture, ce qui est la littérature soufiste, parce que j'aime beaucoup les soufismes. Je pense que c'est une chose très belle. C'est une chose qui peut être comprise par tout le monde. C'est un mouvement littéraire, intellectuel. Il y avait des personnes pendant l'histoire d'Orient qui s'appelaient soufiste. Il parlait principalement de l'amour entre les gens. Il parlait des valeurs humaines, comment on peut élever nos esprits, comment être plus purs. J'aime partager cet aspect de ma culture avec les autres. Il y a beaucoup de textes dans ma religion, beaucoup de choses à connaître, mais j'aime une seule phrase qui, je pense, qui est vers la sommaire, comme elle dit, tu ne crois pas jusqu'à ce que tu aimes pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Je pense que c'est une phrase, mais ça contient tout.
Chaque lundi, de midi à 15h, on se donne rendez-vous pour prendre part au Mini-Mélo.
Ce magazine, animé par nous,
Jean-Paul Sonécal
et la ricaneuse Christiane Dussard, vous renseignera tout en vous distrayant grâce à leur équipe de chroniqueurs.
Un magazine de sujets variés, tels que sport, affaires pratiques, nutrition, nature, histoire, lecture, santé et bien-être, actualité du Sud-Ouest et une foule d'autres sujets qui piqueront votre curiosité. Chaque lundi, de midi à 15h, on vous donne rendez-vous pour prendre part au Mini-Mélo.
Tout cela à la radio du 100,1 CKVL FM ou sur le site ckvl.fm.
Salut, c'est Charlie. J'ai une surprise pour vous. Chaque jeudi, dans mon émission Charlie pour emporter, courez la chance de gagner une paire de billets pour un spectacle différent chaque semaine. Humour, théâtre, musique, variété. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous joindre à moi dès 15h.
Ben oui, ma petite madame, là, ben c'est sur le gaz. Ouais, je pense qu'il y a un faux contact.
Ça, c'est sûr, mon petit monsieur.
Chez Chevrolet Buick GMC de la salle, il n'y a pas de « ouin, ouin ». Parce que la clé de notre succès, c'est le contact avec nos clients.
Ah, ici, le courant passe.
C'est l'événement Vendredi fou, et on aime ça vous en donner plus. Obtenez jusqu'à 11 500 $ en rabais cumulatif sur certains véhicules. Certaines conditions s'appliquent.
Chevrolet Buick GMC de la salle. La clé est dans le contact. gmdelasalle.ca.
Salut, ici Yannick Proulx. Chaque vendredi à 11h, je vous présente votre top 10 franco-anglo. C'est vos 10 chansons préférées les plus jouées à CKVL. Je vous invite en grand nombre à voter pour votre chanson favorite sur notre page Facebook CKVL et profitez-en donc pour nous envoyer vos salutations. Je vous parle des activités du week-end et on termine avec votre chanson souvenir. Le top 10 franco-anglo, ça débute à 11h sur les ondes de CKVL 100,1 et aussi disponible sur TuneIn.
Tous les mardis de 11h à midi, c'est votre bulle de bien-être. Mon nom est Chantal Galimi, je suis une passionnée du développement personnel et de l'humain. C'est un rendez-vous, je vous partagerai ma passion. Je vais recevoir les plus grands experts du développement personnel afin de vous aider à changer les choses dans votre vie. Alors, je vous invite à me rejoindre. 11h, les mardis, c'est un rendez-vous. Vous avez entendu Pierre Quenders et Annie Cooney. Vraiment, moi, j'aime vraiment cette chanson-là. Ça me fait un peu redécouvrir un héritage. Ça me permet de me questionner un peu sur les chansons que j'entendais depuis que j'étais toute petite autour du feu de camp. Et après, vous avez entendu une bulle témoignage. Et c'est un nouveau concept que je veux amener à l'émission, qui est de questionner les gens, en fait, de façon très ouverte, avec des questions ouvertes, de juste leur laisser le temps de parole, de dire comment ils se décrivent en tant qu'être humain, que ça soit à travers les valeurs, le travail, à travers son identité. Et là, on a eu la chance de parler avec Hanoï Fayad, qui, vous l'avez peut-être déjà entendu sur nos ondes, m'aide à travers des capsules éducatives où elle fait la traduction en arabe. C'était une journaliste d'origine palestinienne qui travaillait en Syrie et maintenant, justement, elle travaille un peu avec nous à CKVL pour nous aider avec la traduction en arabe, puisque c'était notre bénévole numéro un. Pourquoi pas l'avoir comme bulle témoignage numéro un? Donc, je la remercie beaucoup. C'est maintenant un peu le temps de pouvoir vous présenter un reportage que j'ai fait à la fin septembre quand je suis partie pendant une semaine à Bruxelles avec une délégation du mouvement Non à la haine. Et c'était une mission qui était exploratoire, donc on allait faire des activités, on parle d'ateliers, on parle de panels, on parle de tables rondes, de conférences, et c'était en partenariat avec les offices jeunesse internationaux du Québec qui ont monté une délégation de 10 jeunes qui étaient issus de plein de milieux différents, mais qui étaient tous en rapport avec justement le secteur interculturel. Et nous, à CKVL, vu qu'on fait de plus en plus de projets pour essayer de favoriser l'inclusion, on s'est dit on va aller participer et on va essayer de rapporter tous les beaux projets de ces jeunes-là. Vous en parler un peu plus aujourd'hui. Et j'ai préparé un reportage. Vous allez entendre quelques-uns des participantes. Vous allez vous rendre compte que sur les 10, ça sera un peu impossible de faire parler tout le monde. Mais on les remercie tous quand même d'avoir pris le temps de parler avec nous tout au long de la semaine. C'était un peu gênant, mais ils ont vraiment se sont prêtés à l'exercice. Et on a aussi la chance de parler avec Amal Amish, qui est la coordonnatrice du mouvement Non à la haine au Québec, qui était l'accompagnatrice du groupe. Donc, à travers le reportage, vous allez pouvoir voir un peu quelles étaient les motivations des jeunes au début de la mission et qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était quoi leurs impressions au cours de la mission et à la fin, c'est quoi les projets qu'ils vont mettre en place directement au Québec.
Le mouvement contre le discours de haine est issu en fait de la campagne Non à la haine qui a été en fait lancée par le Conseil de l'Europe en 2013, dont la campagne a été lancée à la suite un peu de ce qui s'était passé en fait entre autres en Norvège lorsque un individu est parti sur une île et a décidé de massacrer à peu près 70 jeunes. Les raisons en fait il n'y a pas de raison, mais expliquant son geste d'une certaine manière et qui était rempli en fait de propos, tu vois, xénophobes, racistes et discriminatoires. Et donc, en fait, c'était devenu viral et il l'avait fait en ligne. Et donc, c'est pour ça qu'en fait est née la campagne. C'est qu'on s'est rendu compte que ça a un peu réveillé en fait aussi les consciences de beaucoup en se disant que le discours haineux, en fait, en plus de l'avoir hors ligne, on l'a également en ligne. C'est comme ça un peu qu'est né le mouvement. Et l'objectif en fait du mouvement, c'est vraiment de sensibiliser à la question du discours haineux, de sensibiliser à la question que certes, si on a le droit de pouvoir s'exprimer et que la liberté d'expression est un droit fondamental, on a aussi des responsabilités et des obligations. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut tolérer des discours haineux sous prétexte que ça pourrait être de la liberté d'expression. Donc, au travers du mouvement, ce qu'on essaie, c'est d'éduquer, de mettre en place des projets, des formations, des ateliers pour justement développer l'esprit critique, mais aussi, en fait, favoriser l'ouverture à l'autre. Le but, en fait, à la base de la mission exploratoire, je pense qu'un des objectifs principaux, c'était aussi de découvrir qu'est-ce qui se fait en matière de lutte contre le discours haineux. Donc, ça a été principalement tourné par rapport à la journée du 22 septembre, la journée relative à la question, justement, du discours haineux, de la radicalisation des jeunes sur Internet. On voulait vraiment que des jeunes québécois puissent, justement, aller à la rencontre d'intervenants, d'acteurs de terrain, et en même temps, entendre un petit peu qu'est-ce qui se fait, et voir, finalement, qu'est-ce qu'ils pourraient aussi prendre avec eux pour pouvoir l'utiliser dans leur quotidien, étant donné qu'il y avait différents profils en fait dans la délégation.
Salut, je m'appelle Kimberly Coulombe. Je suis étudiante à l'UQAM au certificat en immigration et relations interethniques. Puis qu'est-ce qui m'amène ici à Bruxelles pour ce projet de mission d'études? C'est que je suis sur un projet d'une plateforme qui s'appelle amalgame.info. Fait que c'est une plateforme qui met de l'avant les opinions des personnes racisées ou des personnes issues de l'immigration. C'est ça, je suis venue ici un peu pour voir comment je pourrais créer un plan de modération de tout ce qui est commentaires haineux ou des messages haineux qu'on reçoit. Voir comment est-ce qu'on peut gérer ça.
Qu'est-ce qui t'attirait particulièrement à vouloir travailler sur la problématique du discours haineux puis justement donner la parole à des personnes qui étaient racisées?
Mais honnêtement, sur la question des discours haineux, c'est plus les contre-discours, ou en anglais on dit les counter-narratives, fait que les alter-narratives, je pense que ça se traduit en français. C'est plus ça qui m'intéresse, de comment est-ce qu'on peut, en fait, finir par ne pas parler des discours haineux pour avoir une approche, je sais pas, plus positive à la question des discours de haine, dans le fond.
Aimer les discours de haine ou...
pas aimer les discours de haine, mais au lieu de parler de haine, de parler de l'opposé, dans le fond, de pas nécessairement d'inclusion ou de l'incompréhension, mais honnêtement, j'ai pas encore la réponse, fait que c'est un petit peu pourquoi je suis ici à Bruxelles.
Je m'appelle Anne et je suis étudiante à Laval, mais je suis aussi chargée de projet de l'initiative L'un l'autre que j'ai cofondée avec 10 autres étudiants de l'Université Laval il y a environ 6 mois. Puis c'est une initiative sur les réseaux sociaux qui vise en fait à déconstruire les préjugés à l'endroit des immigrants, des réfugiés, des autochtones aussi, et à générer un dialogue interculturel parce qu'à Québec, il y a un manque d'exposition en fait à la diversité. Donc, moi, par exemple, j'ai grandi dans la banlieue de Québec et puis c'est pas avant l'âge de 18 ans, lorsque je suis rentrée au cégep, que j'ai vraiment été confrontée à la diversité. Puis ça a été vraiment comme un gros choc dans ma propre ville. Donc, j'ai été sensibilisée à cet enjeu-là et puis on a décidé de fonder cette initiative-là qui est en voie de devenir une association étudiante. Puis on a été financée par Facebook, notamment pour permettre l'émergence de notre projet.
Spécifiquement dans dans la mission à Bruxelles, qu'est-ce que tu voulais venir chercher?
Bien, premièrement, je voulais partager l'expertise que j'ai jusqu'à maintenant dans mon projet, mais aussi rencontrer des personnes qui œuvrent dans le même sens que moi, puis voir qu'est-ce qui se fait d'autre. Et puis, c'est ça, me former, en apprendre davantage. Je suis une personne curieuse de nature, donc voilà.
Bonjour, je m'appelle Martine Lheureux, je suis agente de projet chez Action interculturelle pour le projet Dialogue Plus, qui est un projet qui vise à prévenir les discriminations, l'exclusion et la radicalisation chez les jeunes. Le projet Dialogue Plus, il est basé à Sherbrooke depuis janvier 2017, mais le projet est aussi dans 5 autres villes, dans 4 autres villes, donc à Québec, Ottawa, Hamilton et Moncton. Donc c'est un projet qui est pan-canadien. C'est le projet Recherche Action, avec un sondage pour voir la perception des Canadiens sur les discriminations et la radicalisation. Et par la suite, dans chacune des villes, il y a un comité de jeunes en action. Ce sont des jeunes leaders de 15 à 30 ans qui ont envie de se mobiliser pour favoriser un peu le vivre ensemble, prévenir les discriminations, puis instaurer un dialogue entre les communautés. La mission, c'est vraiment utile pour mon projet. Je travaille avec un groupe de jeunes sur ces questions-là, donc c'est une occasion de pouvoir me former, d'aller voir un peu ailleurs qu'est-ce qui se passe dans le monde sur ces sujets-là, de voir qu'on n'est pas tout seul avec ces problématiques-là dans notre ville, mais qu'on est beaucoup à partager dans le monde les problématiques de mobilisation sur la radicalisation, la discrimination, le dialogue interculturel. Donc, c'est vraiment très intéressant.
Mon nom, c'est Marc-Claude Touzin. Je suis intervenante au projet École au CGE au Carrefour Jeunesse Emploi à Trois-Rivières avec une clientèle décrocheurs qui retourne à l'école. Et je connais Logique parce que, en fait, avant, il était partenaire avec nous au Carrefour pour un projet qui s'appelait Eldorado qui amenait de nos jeunes décrocheurs, en fait, faire un stage au Guatemala. J'ai continué à suivre leur projet. Puis ce projet-là m'interpellait particulièrement parce que, avec nos jeunes, on se rend compte qu'il manque beaucoup, en fait, d'éducation par rapport à ça. J'ai le goût d'aider, en fait, j'ai le goût de les amener à développer ça. C'est retour à l'école, fait que c'est beaucoup français, anglais, maths, des matières de base, mais tu sais, au niveau d'apprendre à réfléchir, apprendre à être capable de faire la différence entre je sais quelque chose et je crois quelque chose. Tu sais, souvent, nos jeunes sont beaucoup là-dedans, tu sais, connaître et savoir, c'est pour eux, c'est la même chose, alors qu'ils vont pas se renseigner, ils vont pas savoir si c'est vraiment vrai. C'est leur oncle, leur ami qui leur a dit que, par exemple, les immigrants volaient notre job. Là. Tu sais, on est beaucoup là-dedans avec eux. Là. Fait qu'on essaye d'aller au-delà des matières de base. Puis de, tu sais, pour moi, l'éducation, ça va au-delà de ça. Là.
Moi, c'est Roxane Loca. Je suis directrice de la Maison des jeunes Le Cabanon de Lac-Beauport, qui est une municipalité au nord de Québec. Et puis, dans le fond, nous, on fait partie du regroupement des maisons de jeunes de Québec, donc qui inclut 28 maisons de jeunes différentes. On est en intervention avec les jeunes, c'est un milieu volontaire. Puis les jeunes viennent chercher un peu d'éducation citoyenne là, à la Maison des jeunes, un peu apprendre les bases de la vie. Puis tout ça passe par une intervention informelle puis par le loisir.
Et qu'est-ce que tu voulais venir chercher comme apprentissage pendant la mission en Belgique?
En fait, ce qu'on a planifié, c'est qu'il y a une formation auprès des intervenants des 28 maisons de jeunes. Donc, à peu près une 50aine d'intervenants qui œuvrent directement auprès des 12-17 ans pour venir leur parler du mouvement Non à la haine, puis essayer de partager là, ce que je vais apprendre ici en Belgique, tout ce qui est à propos de la radicalisation. Même chose que ma collègue parlait tout à l'heure de Québec, que c'est très, très peu développé au niveau de la diversité culturelle. Donc, apprendre aux jeunes qu'est-ce que c'est, démystifier les choses, puis essayer d'enlever les préjugés puis les tabous.
Mais justement, quand vous avez intervenu directement avec les jeunes, est-ce que vous pourriez me donner un exemple de comment vous avez vu que c'était un besoin?
Moi, j'ai un de mes jeunes à la Maison des jeunes qui, quand j'ai expliqué que je m'en allais en Belgique faire ce que je faisais, je comprenais pas du tout pourquoi que j'allais prendre 6 jours de temps de travail de la Maison des jeunes pour aller le donner aux immigrants qui de toute façon volent nos emplois. Donc c'est un discours très qui vient de la famille souvent, qui est transposé dans nos organismes et qui amène vraiment une certaine barrière parce que dans beaucoup d'arrondissements de Québec, il y a peu de diversité culturelle. Comme dans la municipalité où est-ce que moi je travaille, là, il y a aucune diversité culturelle. Donc c'est très très éloigné comme concept. Donc essayer de ramener ça un peu plus là, auprès des jeunes.
Moi, c'est Dina. Je suis étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UDM. Qu'est-ce qui m'a amenée à m'inscrire à ce projet-là? Je suis assez engagée dans tout ce qui est en lien avec l'intégration des immigrants, des minorités culturelles, tout ce qui est en lien qui touche avec l'immigration. Puis, je suis issue de la minorité culturelle aussi. Donc, j'ai trouvé que le projet m'interpellait. Et je me suis dit, j'aimerais ça en apprendre plus, surtout dans un autre pays, dans un autre contexte. Puis je trouve que c'est un problème global qui se retrouve localement aussi.
D'ailleurs, est-ce que les problématiques de la diversité, ça va être un sujet que tu vas vouloir aborder dans ta maîtrise?
Oui, justement. Je veux parler des femmes immigrantes au Québec, puis notamment les femmes musulmanes et arabes. Je trouve que il y a beaucoup de questions. En ce moment, c'est très polémique, tout ce qui est en lien avec la discrimination. On a déjà vu dans plusieurs rapports comme quoi les femmes sont plus... les femmes en général, pas seulement les minorités culturelles, mais elles ont plus de difficultés à s'intégrer, mais à être acceptées dans la société, disons-le, entre guillemets. Puis c'est ça.
Un peu les intersections entre son identité de femme et son identité de personne de minorité. Je sais jamais comment vraiment quel terme utiliser.
Moi, j'utilise minorité culturelle. Je trouve que ça fait pas péjoratif. Puis ça englobe plusieurs formes d'intersectionnalité.
Par rapport aux ateliers, en fait, qu'on a choisi de mettre en place, on a vraiment essayé d'aborder un peu les différentes thématiques qui, d'une certaine manière, sont, comment dire, des thématiques actuelles pour la jeunesse québécoise. Donc, si je me souviens bien, tu avais par exemple l'atelier sur le racisme anti-noir. Au niveau, on sait qu'au niveau Québec, il y a aussi cette question du racisme systémique, cette question aussi du racisme envers les personnes noires. Donc, c'était l'idée aussi de, j'ai envie de dire, de comparer un peu la méthodologie qui est utilisée en Belgique, en ressortir quelque chose de plus riche et qui permette justement de mieux éduquer. Tu avais aussi l'atelier relatif à l'islamophobie, par exemple, sachant que l'islamophobie est assez croissante et en augmentation en Europe et qu'on a pu voir que voilà, ici au Québec, c'est également présent. Bah, l'idée, c'était aussi de pouvoir partager les bonnes pratiques. Les bonnes et les mauvaises, enfin. Quand je dis mauvaises pratiques, entendons-nous bien qu'il s'agit principalement de se dire, on a mis en place un outil, mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc l'idée, c'est de voir pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. La mission exploratrice, c'était vraiment, d'une certaine manière, c'était outiller les jeunes pour que justement, ils fondirent leur expertise et acquérir plus de compétences. Et puis, entre autres, un des autres objectifs, que les différents jeunes étaient impliqués dans différents secteurs, dont l'idée, c'est qu'eux-mêmes, en fait, deviennent ambassadeurs du mouvement et donc, finalement, deviennent autonomes.
Pourquoi on envoie des gens à l'étranger pour apprendre sur le discours de haine quand on a très bien ici, puis il y a des choses qui se font ici? Tu sais, c'est quoi l'idée derrière le partenariat, un peu, là?
Certes, il y a des discours haineux, il y a des organismes qui travaillent aussi, mais ce qu'il faut partir du principe, c'est que aussi le discours haineux, c'est beaucoup c'est sur base de la peur de l'ignorance, enfin c'est l'ignorance, tu vois, dont les gens sont ignorants, comment dire, enfin certaines personnes ne savent pas les choses, en fait, ne savent pas que derrière la diversité, il y a toute une richesse et que c'est pas forcément de la diversité, les gens viennent et qu'ils veulent exploiter ou profiter du système. Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est aussi de voir que finalement, une problématique qui est présente l'est également dans d'autres pays. Peut-être pas forcément sous la même forme, peut-être pas les mêmes raisons, mais au final, on a la même problématique, c'est-à-dire que les discours haineux, les discours populistes sont en augmentation et ce, peu importe où on va. Donc l'idée d'envoyer les jeunes à l'international, c'est justement pour pouvoir confronter un peu, j'ai envie de dire, leur réalité à d'autres réalités. Le mouvement, en fait, est coordonné par les offices jeunesse internationaux du Québec, c'est justement de favoriser la mobilité internationale. Donc, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, on a pu, en fait, profiter de ce partenariat privilégié pour justement avoir la possibilité d'utiliser les ressources des offices pour favoriser la mobilité internationale des jeunes et leur donner l'opportunité d'aller à l'international.
Question générale, qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une réflexion qui a été particulièrement suscitée aujourd'hui?
Bien, moi, c'est l'importance de développer l'esprit critique, en fait, chez les jeunes, que je trouve qu'on n'a pas tant au Québec. Tu sais, on parle beaucoup de combler les besoins sociaux et tout ça, mais on parle pas beaucoup de développer l'esprit critique. Puis ici, ils font des liens entre tout ça, puis je trouve ça super intéressant parce que par la banque, ça va combler les besoins psychosociaux, tu sais. Fait que pourquoi pas faire les deux en même temps? C'est super.
Est-ce que tu peux élaborer sur les besoins psychosociaux? Pour une personne comme moi qui n'est pas de même milieu communautaire,
oui. C'est la base de tout ça, c'est apprendre à se connaître, la connaissance de soi, je suis qui, moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, ces choses-là. Il y a des jeunes qui ne savent pas c'est quoi leur goût. Des femmes comme ça, je leur demande c'est quoi vos valeurs, ils ne sont même pas capables de me nommer une valeur importante pour eux, c'est la base. Fait que, en développant l'esprit critique, tu développes aussi la connaissance de soi, parce que là, tu sais c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui me confronte, on fait les deux en même temps.
La radicalisation pour les jeunes en ligne, la discrimination, c'est des problèmes vraiment larges, c'est des problèmes complexes, c'est des problèmes qu'on voit à la grandeur de la société. D'après toi, qui côtoie les jeunes tous les jours,
C'est quoi l'importance de partir de la base, de parler de ces causes-là qui peuvent parfois être très complexes directement avec des jeunes?
Bien, je pense qu'à la base de toute radicalisation vient des opinions qui parfois peuvent partir de l'inconnu, d'un préjugé ou de seulement que quand tu ne connais pas l'autre, tu vas souvent la juger. Souvent, les jeunes au secondaire sont pris avec l'intimidation, donc je vois à peu près le même parallèle avec la radicalisation, puis peut-être si on pousse ça au racisme. Donc en les prévenant dans un travail de diversité culturelle, puis de leur apprendre qu'on est tous pareils et de vivre ensemble, ça peut peut-être venir désamorcer certaines zones grises que certains jeunes avaient. Voilà, donc je pense que ça peut vraiment venir aider. Puis ensuite de ça, bien, s'il y a des jeunes qu'on voit qui sont peut-être plus dans le orange vers la radicalisation ou qui est au rouge, bien... de peut-être venir désamorcer les choses puis que ça aille mieux, finalement.
Si vous aviez un peu à décrire, d'après vous, c'est quoi comme le rôle d'Internet dans la radicalisation? C'est quoi les enjeux de la radicalisation? Là, je le lance vraiment en large, mais dans les trucs que vous avez appris aujourd'hui ou que vous comprenez.
Si je peux y aller, je pense que ce qui est ressorti beaucoup, c'est la question de l'exclusion, du fait que quelqu'un soit discriminé, ne soit pas représenté dans la société, cette personne-là se sent exclue. Fait, où est-ce qu'elle va retrouver son identité? Bien, c'est dans la radicalisation, dans des groupes radicalisés. Dans les panels, parlait justement du fait d'être exclu comme étant instigateur de radicalisation, mais on se disait que c'est peut-être pas la seule chose, qu'il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui amènent les jeunes à être radicalisés, dont peut-être le fait d'être solitaire ou dans le fond que ce qu'on présentait dans le panel, pas qu'on trouvait ça problématique, mais qu'il y avait peut-être autre chose que juste le fait d'être discriminé.
C'est un raccourci intellectuel. Le fait de dire que tout d'un coup, il s'est radicalisé du jour au lendemain, faut pas oublier que souvent, c'est des gens en situation de vulnérabilité. Donc, c'est ça. Par exemple, moi, je suis issue d'une minorité culturelle, mais c'est pas parce que je me sens parfois discriminée que ça veut automatiquement venir dire au fait que « Ah, je vais me radicaliser contre telle société parce qu'on m'inclut pas ». Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui vont pas forcément se radicaliser. Il y a aussi le partage de discours, le partage de connaissances. Il y a aussi le dialogue qui existe. Donc, je pense que c'est un phénomène qu'il faut, oui, le prendre en compte, mais il faut comprendre aussi le contexte de radicalisation.
Qu'est-ce que tu as pensé de l'atelier sur l'islamophobie et celui sur la négrophobie? Qu'est-ce que tu en tires un peu de ces ateliers-là qui nous ont permis de voir une discrimination plus spécifique? Comment on l'adresse quand on veut essayer de faire justement la promotion de la diversité puis dans des enjeux spécifiques de discrimination? Puis comment on fait pour ne pas perpétuer des stéréotypes? Moi, c'est un peu ça que je me demande.
Il faut considérer l'islamophobie, le racisme à différents niveaux, en fait. Par exemple, il peut y avoir un racisme systémique dans la société, mais il peut y avoir aussi un racisme qui est beaucoup plus subtil que, dans le fond, une personne qui n'est pas concernée, par exemple, une personne qui n'est pas noire, ne va pas nécessairement reconnaître cette forme de racisme-là en public. C'est vraiment complexe parce qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions, puis je pense que moi, par exemple, ben, l'initiative que j'ai créée, au départ, on n'était pas sûr si ça allait fonctionner, mais on s'est dit... Peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça va pas fonctionner, peut-être que ça va pas avoir tant d'impact que ça, mais peut-être que ça va avoir un bel impact. Puis l'affaire, c'est juste d'essayer quelque chose. Puis je pense, nous en fait, notre idée, c'était au départ d'offrir une tribune à des gens qui sont concernés par certains enjeux de société, mais qui sont pas questionnés sur ces enjeux-là, mais qui ont un besoin de s'exprimer. Donc au départ, c'était des immigrants, des réfugiés, des autochtones. En parlant avec différents experts, des différents intervenants, ils nous ont dit « Soyez pas exclusifs, essayez d'avoir le maximum d'opinions possibles, en fait, sur les enjeux que vous abordez. » Parce que c'est ça la société, les gens ont différentes opinions, les gens ont des opinions contradictoires et « so what? » L'important, c'est qu'ils soient exprimés dans le respect, puis dans un esprit d'ouverture.
Pour la suite, ce qu'on attend en fait des jeunes par la suite, c'est que tout simplement, tu vois, ils s'engagent d'un point de vue citoyen, tu vois, ils s'impliquent, qu'ils mettent en place eux-mêmes des projets. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte, comment dire, il y ait plus de projets d'engagement citoyen, il y ait plus d'actions
pour justement favoriser le respect, favoriser la diversité, tu vois, le respect des droits humains. Donc, c'est ce qu'on attend d'une certaine manière des jeunes. Donc, l'idée de ce mouvement, c'est pour ça que c'est un mouvement rassemble tant des organismes que des individus. On peut pas compter que sur des organismes pour lutter contre le racisme, par exemple. Il faut d'abord toucher l'individu avant de toucher la grosse organisation.
Donc, chère Roxane, après presque une semaine à Bruxelles, plein de rencontres, si je comprends bien de ta part, qu'est-ce que tu crois avoir appris? Qu'est-ce que tu ramènes au Québec avec toi?
Ben moi, c'est sûr que la campagne Non à la haine, c'est un programme qui est facilement exportable au Québec parce que définitivement, la campagne est déjà au Québec, mais je dirais que beaucoup d'idées de projets me sont venues, des vidéos avec les jeunes, la campagne, une campagne de photos, l'implication de plusieurs milieux avec lesquels je travaille au Québec avec les maisons de jeunes. Donc, je pense fondamentalement que ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a donné beaucoup d'idées aussi.
Est-ce qu'il y en a une qui t'avait marqué en particulier?
Moi, j'ai bien aimé la campagne vidéo. C'est quelque chose qui est revenu de plus en plus à travers nos différentes journées. Donc, un projet de vidéo avec les maisons de jeunes, puis les liens qu'on peut faire avec l'identité, puis peut-être la diversité culturelle, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Puis, c'est sûr et certain aussi que j'ai rencontré une maison de jeunes de Namur, et puis avec eux, l'échange avait été très, très cool à propos de faire peut-être un échange entre nos deux MDJ. Donc, c'est aussi un projet là, que je vais me mettre dès mon arrivée au Québec là, à écrire à mes nouveaux collègues.
Oui, en plus, tu as un grand réseau, là, donc tu vas pouvoir comme, partager toutes les bonnes idées que tu as eues cette semaine.
Oui, en fait, avec mon réseau de 28 maisons de jeunes, le RMDJQ, donc le regroupement des maisons de jeunes de Québec.
Enfin, qu'est-ce que tu as retenu de la semaine en premier?
Moi, premièrement, je suis venue ici pour me former, pour partager des bonnes pratiques pour prévenir la radicalisation. Au Québec, je voulais voir tes différentes approches dans un pays différent avec des gens qui ont des backgrounds différents. Puis, en fait, ce que je retiens de la semaine, ben, essentiellement, c'est que ça vient confirmer le fait que jusqu'à maintenant, puisque mon initiative, avec les autres membres de mon équipe, bien évidemment, tu sais, on est sur la bonne voie. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais on fait bien les choses. On a une initiative qui est positive. J'ai appris des choses. Je dirais que ce que je retiens, c'est d'apporter beaucoup plus de nuances dans mon approche. Par exemple, au niveau de l'intersectionnalité. Donc, quand je considère, par exemple, l'islamophobie, de pas juste voir l'islamophobie, mais aussi peut-être le sexisme. Donc, de pas juste considérer un type de phobie, mais plusieurs qui peut s'appliquer à une même personne. Considérer l'individu avec selon une multitude de perspectives, puis les différentes discriminations en fait qui peuvent s'appliquer à cet individu-là. Donc, par exemple, une femme musulmane peut se faire discriminer parce qu'elle est musulmane visible à cause qu'elle porte, par exemple, le foulard, mais aussi elle peut se faire discriminer à cause qu'elle est une femme.
Donc, l'idée de ce mouvement, c'est vraiment de faire en sorte qu'il soit rassembleur. Peu importe, d'une certaine manière, dans quelle catégorie tu ferais partie. Nous, on ne veut pas qu'il y ait de catégorie, justement, parce que la thématique touche tout le monde, en fait. Et donc, par rapport aux jeunes, l'idée, c'est vraiment que lui-même, en fait, soit responsable de ses propres actions et que lui-même, en fait, prenne conscience, peut-être, de ce qui ne va pas, par exemple, dans sa propre communauté et qu'il se dise, ce serait chouette de peut-être réaliser telle ou telle action positive.
Donc, c'était mon reportage que je vous ai rapporté en direct de Bruxelles. Une semaine d'enrichissement, de conférences sur la négrophobie, l'islamophobie, mais aussi sur comment est-ce que des jeunes se radicalisent en ligne et essayer un peu de défaire les stéréotypes, les tabous. Donc, ça a été vraiment très intéressant. Puis, je me remercie tous les participants et participantes qui ont contribué au reportage que vous avez entendu, et surtout Amal Amish, qui était la coordonnatrice du mouvement Non à la haine au Québec, qui essaie vraiment de s'implanter au Québec parce qu'à la base, c'était un mouvement qui était européen et qu'on essaie d'aller à travers le monde. Donc, on parle d'un mouvement, pas d'un réseau d'associations, mais juste l'idée que tout le monde est là pour promouvoir des valeurs d'inclusion et de respect. Donc, c'est vraiment ça qu'on a voulu faire transmettre à travers le reportage. Et comme promis au début de l'émission, on a plusieurs activités qui seraient intéressantes à aller voir la semaine prochaine, qui sont un peu en rapport avec le thème de l'émission. Vous verrez, il y en a toujours beaucoup. Si vous verriez seulement le calendrier de mon agenda, en fait, il y a tellement d'activités qu'on pourrait aller participer, c'est fou. Donc, je vous en partage quelques-unes aujourd'hui. Donc, comme vous savez, il y avait le Salon du livre du 15 au 20 novembre. Donc, vous avez encore le temps d'y aller ce soir, samedi, dimanche, lundi. Plein de panels qui sont intéressants, de conférences. On partagera d'ailleurs la programmation complète de l'espace pour la diversité sur la page de CKVL FM pour que vous puissiez voir quel pourrait vous intéresser. Donc, on a entre autres dimanche un atelier qui s'appelle Bibliographie pour combattre le racisme. Donc, plusieurs livres à découvrir si jamais ça vous tente. Et au niveau de la chanson, on parle du duo italien Iliara et Graziano et Francesco Forni qui sont de passage à Montréal en direct de l'Italie pour le Festival Mondial Montréal qui a lieu depuis quelques jours et qui en fait amène des spectacles d'à travers le monde et aussi à travers Montréal pour voir toute la diversité qui existe en matière de culture, de musique. Donc vous pourrez aller les voir ce dimanche à 21h au Club Balatou, du folk un peu revisité. Moi j'ai bien aimé, donc si vous voulez faire une petite découverte, ça vaut la peine d'y aller. Donc on partagera ça aussi sur la page de CKVL. Et au niveau des emplettes de Noël, ça commence déjà, vous devez commencer à voir qu'il y a beaucoup de marchés de Noël qui pullulent et qui éclosent un peu à travers la ville. Mais pourquoi pas aller voir un marché de Noël un peu typique d'une autre culture. Il y a la Société allemande de Montréal qui, comme à chaque année, fait le bazar de Noël allemand. Donc, c'est l'occasion d'aller voir des artisans avec la tradition allemande également, de pouvoir soutenir leur cause, de pouvoir manger de la nourriture allemande typique. Et c'est vraiment une tradition qui est très présente en Allemagne. Si jamais vous avez voyagé en Europe pendant le temps des fêtes ou pendant le mois qui précède le temps des fêtes, c'est des petits marchés qu'on voit à l'extérieur avec des kiosques avec beaucoup d'artisans locaux, mais aussi avec des bonbons typiques. C'est une tradition. Donc, on peut aller participer à cette tradition-là par la Société allemande de Montréal qui se tient à l'hôtel de ville de la ville de Mont-Royal, cette petite enclave à travers la ville de Montréal. Donc, ça commence ce samedi à midi. Et sinon, il y a beaucoup d'autres panels que vous pourrez découvrir à travers l'île de Montréal. On vous en partagera quelques-uns sur la page de CKVL FM. Et comme on peut voir, c'est une ville qui est diversifiée, qui est riche et on va explorer ça dans les prochaines semaines à l'émission Vice Versa avec votre animatrice Marie Chabot-Johnson. L'émission sera tous les vendredis à 13h sur les ondes de CKVL FM 100,1.
Tous les jeudis, 17h15, ne manquez pas Myriam Pomerleau, la collectionneur.
Tu veux dire la collectionneuse?
Ben non, c'est très juste. Cette femme curieuse, énergique et passionnée vous donne rendez-vous dans Charlie pour emporter. La collectionneur, les jeudis, 17h15.
100 ans de chansons françaises d'ici et d'ailleurs, agrémentées de quelques anecdotes. C'est l'émission Dans la rue des souvenirs.